Podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
Hello tout le monde, on reçoit cette semaine sur Zero to One un serial entrepreneur et un vrai tech maniaque, Pascal Lévy-Garbois, passé par les plus belles réussites tech aux États-Unis, dont Yahoo, Checker et eBay. Et ayant lui-même cofondé Virtuose, un leader mondial dans le marché des chatbots, il a lancé plus récemment Nousa Labs, une société qui aspire à acheter des SaaS avec un début de traction sur certaines verticales afin de les scaler. Salut Pascal, comment ça va?
Très bien, et vous?
Super, super. Aujourd'hui, on est très heureux de t'avoir sur Zero to One. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Pascal, j'ai 20 ans d'expérience dans la tech. Je suis aussi marié, père de trois enfants. On habite à Paris aujourd'hui après avoir vécu pendant 12 ans à San Francisco. Je disais tout à l'heure que j'ai donc 20 ans d'expérience dans la tech. J'ai commencé en effet en 2003, à un moment où la tech aux États-Unis était très déprimée, où les VC se demandaient si l'illusion et qu'ils avaient vécu entre 2000 et 2000, entre 98, on va dire, et 2001, 2002, était un mirage où ça allait revenir. Et où l'écosystème tech français n'hésitait tout simplement pas. J'ai en effet j'ai rejoint, on va dire, comme late co-founder une boîte qui s'appelait Virtuose, qui faisait des chatbots en 2003. J'ai travaillé pour eBay en fait en parallèle, ce qui était un setup assez bizarre. Et paradoxalement, c'est un setup qui nous a été utile puisque plus tard, on a signé eBay en France et puis aux US. Et c'est ce qui nous a permis de lever de l'argent aux US, de déménager aux US et de lancer Virtuose aux États-Unis en 2008. En 2008, on a levé de l'argent auprès de VC américains. Et donc, Virtuose a été vendu en 2013. Moi, entre-temps, j'ai rejoint une boîte qui s'appelait IQ Engine, une startup qui s'appelait IQ Engine, dans l'IA aussi, mais dans la reconnaissance d'image, qui a été vendue à Yahoo. Je suis parti avant l'acquisition de Yahoo, enfin, au moment de l'acquisition, pour créer une autre boîte qui s'appelait Six Doors, qui était dans la livraison, un peu comme épicerie, un peu en France, mais ça a moyennement marché. J'ai décidé de pas continuer l'aventure et en parallèle, j'ai commencé à investir en tant que business angel. Et en 2000, 2015, début 2015, j'ai rejoint une startup que j'avais dans laquelle j'avais investi avant, qui s'appelait Checker, qui était une société qui faisait un logiciel dans le background check qui permet de vérifier le casier judiciaire avant embauche de quelqu'un. Il est très utilisé aux États-Unis, notamment à ce moment-là, il y avait le boom des Uber et autres. Et en fait, je les ai rejoints comme premier cadre, comme on va dire premier membre de l'équipe dirigeante et 9e employé en 2014, 2015, pardon. Et je suis resté 4 ans là-bas. On est passé de 9 à 300 personnes et de moins d'un million à plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. En 2019, j'ai quitté la société qui commençait à devenir un peu grosse à mon goût, etc. Et donc, j'ai continué à investir. Et fin 2019, on a quitté les États-Unis avec ma famille. On a fait un tour du monde au début 2020, qui n'était pas la meilleure année pour faire un tour du monde. On a quand même pu voyager pendant 4-5 mois sur les 7 qu'on avait prévus. Et puis, en 2020, on est rentré en France. Et depuis, en fait, j'ai deux activités aujourd'hui. Je suis venture partner dans un fonds américain qui s'appelle Long Journey Ventures, qui est un fonds de pre-seed, seed, principalement. Et je suis aussi CEO de Nousa Labs, qui est une holding qui rachète des tout petit SaaS, enfin, moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, qui sont en général assez, même très profitables, avec assez peu d'employés, et on rachète ça un peu partout dans le monde. Donc, si y en a parmi vous, parmi les auditeurs, qui créent qui bootstrapent un SaaS et qui arrivent à faire plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires et qui veulent vendre, qui n'hésitent pas à m'écrire dans les années qui viennent. Mon email est ouvert.
Vous avez entendu les auditeurs, contactez Pascal sur son email qu'on donnera à la fin de l'épisode.
Exactement.
Et voilà, du coup, on va revenir sur ton voyage autour du monde.
Ouais.
Non, non, je rigole, je rigole. On va revenir sur tes débuts professionnels. Donc, tu commences, tu as fait Polytechnique en France et après, tu pars en Californie pour faire ton master à Stanford.
Ouais.
Du coup, je voulais savoir comment fut ton expérience à Stanford. Une école de renom pour les entrepreneurs dans la tech. Et aussi, j'ai vu que à Stanford, tu as pu te spécialiser dans le marketing. Du coup, je voulais savoir aussi comment tu t'es découvert une passion pour le marketing et qu'est-ce qui t'a fasciné dans ce domaine le plus pour concentrer ton master dessus.
Alors, beaucoup de questions. Ça remonte, hein. Ça remonte quand même. Mais en fait, quand j'étais à Polytechnique, j'avais créé une association qui s'appelait le Binet Création d'entreprise, Startix, qui depuis a pris toute autre dimension aujourd'hui. Mais il n'y avait pas d'association pour la création d'entreprise. Et je crois que c'est une bonne idée d'en créer un. Et donc, j'essayais d'évangéliser sur la création d'entreprise à l'X à ce moment-là. Et disons que c'était mignon, mais il n'y avait pas un engouement majeur autour de ça, à part en 2000, on avait fait une table ronde pendant la période de la bulle, où là, tout le monde me disait, mais en fait, t'as raison, etc. Et ensuite, 3 mois plus tard, le Nasdaq s'est écroulé et les gens me jetaient des pierres. Mais bon, disons que je savais que je voulais faire ça, je ne voulais pas aller dans une boîte industrielle classique. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, Stanford, ça me paraissait un bon endroit pour les raisons que tu as dit, parce que c'était une culture entrepreneuriale, parce que c'est une bonne fac, etc. Donc, j'y suis allé. Franchement, je me suis cherché. J'ai fait un master qui était très général. J'aurais pu faire des maths, j'aurais pu faire un peu tout. Et en fait, je me suis rendu compte que le domaine qui. Donc, je pouvais aussi prendre des cours un peu partout à Stanford, et j'ai pris pas mal de cours à la business school en marketing, et je trouvais que c'était assez intéressant. Et donc j'ai fait pas mal de cours en marketing à la business school. Finalement, tous les cours de marketing de la business school, je les ai faits en fait. Mais paradoxalement, c'est pas ça ce que j'ai le plus aimé. J'ai fait un cours à Stanford avec un professeur qui s'appelle BJ Fogg. Ce prof avait envoyé un mail à tous les. Enfin, il avait envoyé un mail en fait à tous les élèves de la School of Engineering sur son lab. Et je m'étais renseigné. Il avait un lab qui s'appelait sur la captologie, qui est en fait l'étude de la persuasion par les ordinateurs. C'est un domaine qu'il a créé en fait lui, et qui est devenu hyper prévalent. Enfin, tous les algorithmes qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tous les outils que tu as de growth hacking pour faire en sorte, pour créer de l'engagement au niveau des consommateurs, c'est lui et son labo qui les ont créés en fait. D'ailleurs, l'un des cofondateurs d'Instagram, Mike Krieger, était un de ses élèves. Et donc, je voulais. J'ai fait sa classe, j'ai rejoint son labo, et la classe, il fallait créer un produit à la fin, pas un vrai produit, mais c'était un produit en gros, l'équivalent d'aujourd'hui de Figma, quoi. Et j'ai adoré, et je me suis dit, c'est ça ce que je voulais faire. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, enfin, je me suis dit que je voulais faire du product management ou du product marketing. Et donc, j'ai essayé de commencer ma carrière là-dedans. Mais c'était dur parce que il n'y avait pas de job en fait. J'avais interviewé chez PayPal aux États-Unis, mais pas pris. J'avais interviewé chez.
C'était avec
Pardon?
qui l'interview chez PayPal? T'as rencontré la founding team et
Non,
David
non, non,
Sachs
ils étaient. Ils étaient non, ils étaient. Non, non, ils étaient c'était en 2004, donc ils
Ah,
avaient déjà
2004,
été
pardon.
rachetés par eBay, etc. Mais disons que c'était. Enfin, la personne en question qui m'a interviewé, c'était la manager, c'est quelqu'un qui est devenu ensuite. CEO de Affirm, qui est une 30 billion dollar compagnie dans le lending, qui a été aussi CEO de Flexport aussi. Enfin, bon, c'est. Elle m'a dit, je me souviens, c'est très bien, elle m'a dit, je serais bien embauché toi parce que je suis marié. Elle était mariée aussi, un polytechnicien, et elle savait un peu comment il fonctionnait. Elle m'a dit, mon équipe, ils ont préféré prendre un autre gars qui était plus. Qui était un peu moins rough on the edges, c'était en gros un peu moins. Plus lisible pour eux. Donc, je n'ai pas été pris. J'avais aussi postulé pour un job chez Google. J'avais fait pas mal d'interviews, mais je n'avais aussi pas été pris en 2003 quand ils étaient moins de 500 employés. Mais bon, bref, mais mis à part ça, il y avait très peu de jobs en fait. Donc, quand je suis rentré en France et que je cherchais des boulots même aux États-Unis ou en Europe, il n'y avait quasiment rien. Mais bon, en tout cas, je savais que c'était vers cette voie-là que je voulais aller. Et ensuite, j'ai essayé un peu de piloter à vue.
Okay.
Et juste pour revenir sur ton expérience à Stanford, est-ce que ça t'a pas motivé de lancer une boîte, le fait de te retrouver dans un tel écosystème, s'il n'y avait pas de job à la sortie de l'université?
oui et non. Enfin, disons que il faut. C'est difficile d'imaginer qu'est-ce que ça aujourd'hui, mais. C'était très difficile. Enfin, en fait, le marché, il n'y avait pas de marché, en fait. Comment dirais-je? J'avais une idée. C'est en France, je me suis dit. En fait, à fin 2003, je me suis posé la question. Il y avait Craigslist aux États-Unis, un site de petite annonce. Je me suis dit, tiens, c'est une opportunité. Il n'y a pas de Craigslist en France, etc. Et donc, j'avais essayé de convaincre mes potes qui étaient devs de l'X de faire ça avec moi. Personne n'était vraiment très excité. C'était pas vraiment l'état d'esprit. C'est difficile de créer une boîte quand il n'y a pas de momentum autour de soi en termes de gens. Et globalement, disons que c'est pas qu'il n'y avait pas d'opportunité, c'est juste qu'il n'y avait pas de dynamique. Et il n'y a pas de dynamique parce que enfin, faut se dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en computer science à Stanford en master, il a 10 offres d'emploi et 5 idées de start-up qu'il va créer. À l'époque, mes amis qui avaient fait un. J'avais un pote qui avait de l'X, qui avait fait Stanford aussi, qui a été pris chez Oracle. Enfin, Oracle, c'est pas le dinosaure d'aujourd'hui, mais c'était pas non plus la boîte dynamique. Hein. Et je me souviens qu'on a fêté ça, quoi. Donc, parce que c'était dur. En fait, c'est très difficile de s'imaginer. Tout le monde voulait être entrepreneur. Beaucoup de gens voulaient être entrepreneurs à terme, mais personne ne s'imaginait que c'était possible à ce moment-là. C'était vraiment une période de transition, en fait, notamment aux États-Unis. Et puis bon, il y avait les problèmes de visa. On avait un visa étudiant. On ne pouvait pas vraiment créer une boîte avec un visa étudiant. Avoir un visa international, c'était hyper dur. Même à un moment, enfin, c'était débile, mais il y avait un programme mis en place par Google pour les jeunes diplômés pour être associé de product manager. J'avais fait des entretiens, ils m'avaient invité pour un on-site et ensuite ils ont été annulés parce que j'étais français et avec ce qui se passait en 2003 avec la guerre en Irak et les Français et le French bashing, ils se sont dit non, je pense qu'ils n'arriveront pas à te trouver un visa en 2003. Donc, enfin, c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer ce que c'était à l'époque, mais à l'époque, c'était pas quelque chose. C'était pour beaucoup d'entre nous, c'était un rêve, mais c'était pas quelque chose qu'ils envisageaient immédiatement tout de suite.
Ok,
Je pense qu'il y a
c'est clair.
vraiment une histoire de modèle en fait, et aujourd'hui ça paraît normal de le faire. Et à l'époque, c'était quelque chose qu'on voulait faire tous mes copains, et globalement certains d'entre nous l'avons fait, mais c'était pas quelque chose qui était une évidence comme ça peut l'être aujourd'hui.
Et de tes potes qui étaient avec toi à Stanford, est-ce qu'il y en a qui ont fait des gros succès qui sont connus aujourd'hui ou? Où c'était
Alors parmi mes potes, alors déjà parmi mon pote de labo, j'en ai un qui est devenu un auteur à succès aux États-Unis. Il a écrit un livre qui s'appelle I Will Teach You to Be Rich et qui est vraiment
Ah, c'est l'Indien qui s'appelle
Ramit Sethi, Et donc lui, il était dans mon labo à Stanford aussi. Et on a fait des choses ensemble à l'époque. Donc ouais, lui, il a utilisé énormément ce qu'il a appris en fait dans le programme de BJ Fogg pour à la fois son livre et toute sa communication autour de son livre. Et lui, enfin, il est pas connu en Europe, mais il est vraiment connu aux États-Unis. Il a des millions de lecteurs, etc. C'est vraiment un des financial gurus, on va dire. D'ailleurs, la preuve, puisque David le connaît.
Et il est connu dans l'univers du dating aussi, parce que j'avais
Oui,
trouvé
oui,
des
oui. Ouais. Et
Merci pour
puis,
cette info.
ouais, ça, je le sais moins, ça. Mais en tout cas. Et donc, non, j'ai un copain à moi qui a, un de mes bons amis, qui a créé une boîte qui s'appelle Tango, qui était une app de chat, au début de vidéo chat, qui est devenue très connue, qui est devenue une très grosse boîte aujourd'hui, encore aujourd'hui, plus avec son use case initial, mais en tout cas qui est une grosse boîte et un gros succès. Donc, et puis j'ai un autre copain qui a créé une boîte qui est rentré en bourse, qui s'appelle Irgo, qui est une boîte. En fait, c'est une oreillette pour les personnes âgées ou les personnes malentendantes, mais avec des technologies différentes des
Ok.
technologies classiques. Donc voilà.
Juste maintenant, pour revenir à la pré-Stanford, donc tu as trouvé un job après, donc c'était chez eBay, il me semble bien. Et on parle de ça, tu rejoins en tant que lead co-founder virtuose, c'est ça? Si
Ouais.
je peux me
En
dire un peu.
fait, quand je suis rentré en France, j'ai mis un an à trouver un boulot. C'était hyper dur de trouver un job. En fait, enfin, j'ai eu des offres d'emploi, un chez Orange, etc., mais que j'ai refusé. J'avais des interviews. À un moment, je me suis dit, à l'époque, je m'étais posé la question d'aller chez Procter & Gamble parce que Steve Ballmer, le fondateur d'Intuit, avait bossé chez Procter & Gamble pendant 2 ans avant de. Meg Whitman aussi, avait bossé pendant 2 ans avant de. D'aller dans la tech, je me suis dit, bon, ben, j'apprends le marketing chez Procter & Gamble et ensuite j'irai dans la tech. Mais j'ai échoué au dernier entretien. Et donc, voilà. Donc, en fait, pendant un an, j'ai galéré pour trouver un travail. J'ai aidé mes copains de Virtuos que j'avais rencontrés un peu par hasard à ce moment-là. Ils cherchaient un taf et finalement, j'ai rejoint eBay tout en continuant à bosser pendant mes RTT. Pour Virtuose et j'ai rejoint Virtuose un an et demi après.
Ok. Et du coup, Virtuose, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous dire un peu ce que
Donc
c'était?
Virtuose c'était une boîte de chatbot qui finalement avait créé enfin, aujourd'hui c'est connu, tout le monde comprend ce que c'est qu'un chatbot avec ChatGPT, etc. Mais disons que c'était un chatbot qu'on mettait sur un site web et qui permettait de répondre des questions des utilisateurs, notamment en relation client, en avant, etc. C'est le problème ou ce qui était difficile pour Virtuose au début. Virtuose a été créé en 2003, mais entre 2003 et 2005, finalement, ils ont créé la tech, mais surtout, il n'y avait pas de site en France qui avait un problème de relation client en gros volume, en fait. Donc, les gens comprenaient théoriquement le fait que ça résolvait un problème. Mais il n'y avait pas de site qui pouvait vraiment être un client.
Okay.
Et puis ensuite,
Il y avait déjà de l'intelligence artificielle dans la façon dont vous répondiez, ou c'était des questions un peu une FAQ intelligente avec
Non,
des...
il y avait de l'intelligence artificielle de l'époque, quoi. Mais oui, il
Ouais,
y avait
ok.
du natural language processing, du traitement du langage, etc. Il y avait des algos, encore une fois, qui à
Ouais.
l'époque étaient plutôt pas mal,
C'est assez précurseur, alors.
mais c'était très précurseur.
Ok.
Ouais. Et donc, oui, et d'ailleurs, enfin, on en reparlera, mais disons qu'il y a beaucoup d'idées qu'on a eues après qui se mettent en place aujourd'hui ou qui vont se mettre en place aujourd'hui.
Ok.
Mais disons que. En fait, le tournant, ça a été en fin 2004. Il y a eu. Je crois que c'est fin 2004 ou début 2005, je ne sais plus. Voyage SNCF qui a décidé d'utiliser la solution parce que enfin, forcément, c'était le Voyage SNCF à l'époque, c'était un des plus gros sites de e-commerce en France.
Okay.
Et donc, ils ont décidé d'utiliser notre solution. Et moi, j'ai participé notamment à la négociation de ce deal, qui était un gros deal pour nous, enfin, et qui a mis en place notre business model, qui aujourd'hui est utilisé par des acteurs du chat, qui était le Coupa Révolution.
OK.
Et en fait, on a. On a signé ce deal qui nous a quand même donné un certain coussin de revenus. On a levé de l'argent. On a levé 1,6 million d'euros à l'époque en deux tranches. Et ensuite, on a développé la boîte. Donc moi, j'ai rejoint la boîte à ce moment-là, en 2005. Et donc c'était un... Mais encore une fois, c'est très difficile d'imaginer le monde de l'époque aujourd'hui. Parce qu'il y avait... On avait des leads, etc. Et on signait des deals. Mais un, enfin, il y avait très, très peu de sites qui avaient des gros volumes, en fait.
Ok.
Très, très peu.
Donc c'était un marché qui était petit. En plus, vous étiez, c'était avec un focus sur la France, c'est ça?
Au début, on était focalisé sur la France.
Ouais.
Et ensuite, en 2007, je crois, on a signé eBay France
Ok.
avec mes anciens collègues d'eBay, en fait. On savait qu'ils avaient un problème. Je savais qu'ils avaient le problème, en fait, puisque j'ai travaillé pour eBay pendant 1 an et demi, donc j'avais vu ça. Et donc, ils ont fait un test avec nous qui a bien marché. Et en fait, leur produit avait été... ils avaient fait une démo à Meg Whitman, qui était le PDG d'eBay de l'époque, etc. Et tout le monde connaissait, tout le monde connaissait en France, enfin aux US, que l'agent d'eBay France, quoi.
Ok.
C'était un. Vraiment, tout le monde savait que ça existait, tout le monde savait que c'était un succès, etc. Et puis un jour, on a eu l'opportunité de le montrer aux US. Et voilà, on a réussi à gagner ce deal-là. C'était une dure bataille, mais on a réussi à gagner ce deal-là et c'est ce qui nous a fait changer de dimension. Cet été 2008, on a levé de l'argent, signé eBay, signé PayPal, signé American Express, signé une boîte qui s'appelle Check, qui est devenue une boîte cotée en bourse aujourd'hui. Et finalement, on a refusé une term sheet de Sequoia.
Ok.
On s'est installé, je me suis installé avec ma femme aux États-Unis, à San Francisco, en octobre, le 2 octobre 2008.
Ok. Et pour être un peu plus rentrer un peu plus dans le ce que toi tu faisais précisément, c'était quoi ton rôle du co-founder, mais tu gérais quelle partie?
Alors, en fait, j'ai eu deux rôles chez Virtuose. Au début, j'avais un rôle. En fait, Virtuose faisait du B2B,
Ok.
mais notre rêve à tous, c'était faire du B2C. Notamment on avait une vision commune qui, objectivement, est aujourd'hui une vision qui se rapproche de ChatGPT.
Okay.
C'est-à-dire le fait que les gens aient un agent intelligent qui peut résoudre des problèmes, qui était connecté aux agents des différents sites, marchands, etc., et qui pouvait... c'était ça notre vision, en fait. Et on se disait, il faut qu'on crée une dimension consumer. On avance sur le consumer et le B2B en même temps, et puis un jour, ça va converger. C'était ça notre vision.
Okay.
Donc le B2B, c'était alimentaire, mais ils m'ont dit, Pascal, essaye de créer la partie consumer. J'avais une expérience chez eBay, etc. Et donc, en fait, j'ai créé un produit qui nous est pas arrivé par hasard. C'est en fait, on avait un partenaire coréen qui avait fait un partenariat, une joint venture avec Virtuose.
OK.
Lié au fait que l'associé principal, Alexandre Lebrun, avait des liens en Corée. Il était cofondateur d'une agence web en Corée. Et en fait, ils avaient créé en fait un avatar que tu pouvais utiliser et qui répondait à ta place, en fait.
OK.
Et donc, c'était un réseau social, c'était un avatar, il fallait lui apprendre, etc. Et donc, on a pris ce concept et on l'a changé avec notre sauce. Et donc, on a créé ce produit qui s'appelle Skaz. Et d'ailleurs, je pense que derrière, tout en haut, si vous voyez en haut, là, le petit personnage bleu, c'est lui. Et en fait, Skaz, c'était l'avatar qui parle pour toi quand t'es pas là. Il y a une pub Skaz sur YouTube. Il y a même... Ce qui est amusant, c'est que j'ai rencontré là, récemment quelqu'un qui avait un lab d'IA qui avait levé beaucoup d'argent et il m'a dit l'élément déclencheur pour lui, c'est d'avoir joué avec Skaz en 2006-2007.
OK.
Donc c'était un produit très novateur où en fait, enfin qui était à la fois un réseau social pré-Facebook en France qui te rend et le la chose qui nous a vraiment fait décoller, c'est le moment où on a permis aux gens de quand ils étaient offline sur Messenger.
Ouais.
En fait, Skaz le remplaçait.
D'accord. Donc B2C aussi, vous avez
C'était
fait
que
un peu.
B2C. C'était que du B2C. Ce cas, c'était que B2C. Donc moi, j'étais en charge de l'équipe B2C.
Ah bon, d'accord.
Et le PDG était en charge de l'équipe B2B. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2008, on s'est rendu compte, on faisait la pub à la télé parce qu'on avait un accord avec M6, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un produit qui était sympa, mais qui n'était pas, qui allait pas. Enfin, le chat, finalement, c'était déceptif. Et on n'arrivait pas à monétiser ça et à garder la. C'était. Et donc, on s'est dit, bon, en fait, on allait soit le vendre, soit créer un site de jeu pour les ados et s'en débarrasser. Et en parallèle, j'étais en charge de l'internationalisation de Virtuose, et notamment de l'expansion aux US, puisque j'avais un réseau là-bas. Et donc, c'est moi qui ai trouvé et signé les deals avec Amex, avec eBay, avec PayPal, etc. Et donc, finalement, et j'ai participé avec Alexandre à la levée de fonds aux US. Donc en fait, c'est moi qui suis le premier à être allé aux US et Alex m'a rejoint quelques mois plus tard, le CTO.
Et du coup, sur cette partie expansion internationale, je trouve ça c'est intéressant, je pense, de te poser des questions dessus.
Ouais.
Comment ça s'est fait? Parce que, à t'entendre, mon impression, c'est que d'abord, vous étiez qu'en France, vous aviez eBay France et vous avez, au final, ça fonctionnait bien, signé du coup eBay Monde et c'est à ce moment, enfin eBay aux US, et c'est à ce moment-là. Vous vous êtes dit il y a une carte à jouer à l'international ou est-ce que dès le début vous aviez pour ambition d'être international? Comment vous avez fait en étant basé en France de base à signer quelques clients si ça s'est bien passé comme ça?
Alors, encore une fois, je dis ça avec. Enfin, je vais faire un peu papy, mais il faut voir ça avec le monde de l'époque. C'est-à-dire que
D'accord.
on est une boîte. Virtuose, c'était une boîte qui a survécu pendant longtemps parce que c'était aussi une boîte de service. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un setup pour les gens et ensuite on avait une licence mensuelle, enfin, un abonnement récurrent qui dépendait du volume de transactions. Et donc. Un des quatre cofondateurs, dont je n'ai pas parlé encore, Laurent Lodowski, qui était la personne en charge du service, qui est toujours associé aujourd'hui avec Alexandre sur une autre startup qui s'appelle Nabla. C'est lui qui finalement faisait tourner la boutique, en fait, puisqu'il gérait les projets. Et donc, cette dimension service faisait que c'était difficile de faire du SEO sur. Des agents conversationnels, etc., pour aller aux US, parce qu'en fait, c'était pas du tout un produit que les gens pouvaient sur lequel les gens pouvaient onboarder comme ça. Il fallait vraiment être pris en main, etc. Et les Américains, notamment à l'époque, enfin, je me souviens quand on avait l'appel d'offres avec American Express, le gars de l'IT m'avait dit pendant la pause, on avait été pour boire de l'eau ou un café. Il dit, franchement, ma femme bosse chez L'Oréal et vous êtes la première fois. C'est la première fois de ma vie depuis 10 ans que je bosse chez American Express, que je vois une boîte française me pitcher. Donc, c'était pas imaginable en fait à l'époque. C'était un autre univers, enfin, c'était vraiment un autre monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu eBay France. Ensuite, on a intéressé PayPal France et il se trouve qu'au moment où on a pitché PayPal France, il y avait les execs, le VP Product, un des VP Product de PayPal qui était en France. Et donc, en fait, c'est eux qui nous ont poussés. En même temps, eBay France nous poussait. Et donc, la somme de ces deux choses-là fait qu'on a eu des opportunités. De la même façon, pour American Express, il se trouve que j'avais un ami à moi qui bossait dans un cabinet de conseil qui bossait avec American Express à New York et qui m'a dit, et grâce à lui, on avait pitché au big boss de la relation client monde de American Express. Et donc, on avait fait un voyage express à New York en 2007, on lui avait pitché et il avait été impressionné par le meeting. Et en 2008, en fait, il y a eu un appel d'offres et on nous a été inclus dans l'appel d'offres en 2008. Et donc, on a gagné.
Ok, super clair. Je voulais savoir qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a différencié Virtuose de la compétition et pourquoi Américaine vous a choisi vous au lieu de d'autres boîtes dans le même secteur? Parce que j'imagine qu'il devait avoir plusieurs entreprises spécialisées dans dans ce domaine, si je ne me trompe pas.
Ouais. Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus et c'est ça va paraître pas du tout humble, mais en fait, c'est la vérité. C'est qu'en fait, je pense que notre techno était un peu mieux, c'est vrai. Mais ils nous ont choisi parce que les gens ont fait beaucoup plus confiance à Alex, le CEO, et moi, ou aussi à Laurent par ailleurs, que en qui que ce soit d'autre. Et quand une boîte, une grosse boîte, achète à une start-up au début, où le produit il est un peu ce que les Américains appellent half-baked, c'est-à-dire il est là, mais il est un peu pâteau, quoi, il n'y a pas tout, etc. Ben, en fait, les gens, ils achètent toi, ou enfin, ils achètent les fondateurs, quoi, ils achètent les gens qui sont en face d'eux. Ils n'achètent pas le produit, ils achètent les gens en face d'eux. Et d'ailleurs, le drame de Virtuose, enfin, des années qu'on suivit, en fait, c'est qu'on a mis un an et demi à se rendre compte de ça. Mais aujourd'hui, je le sais, et en fait, voilà, on était plus fort, plus intelligent, plus excitant comme fondateur que tous les fondateurs de nos concurrents. J'ai rencontré tous les gens, les autres étaient visionnaires aussi, c'est pas le problème, mais ils étaient moins smart, ça allait moins vite. Enfin, voilà, c'est tout. Notre techno était un peu mieux, mais c'est pas ça ce qui fait qu'on a été pris. On a gagné parce que on a gagné parce qu'on avait un bon réseau sur ces deals-là, et on a gagné parce que en plus, quand on était face aux gens, on était plus crisp et ça, voilà, ça se voyait. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que au moment où on a essayé de scaler ça et on a embauché des gens d'autres que nous pour le vendre, ça n'a pas marché, donc ou pas vraiment. Donc en fait, voilà. Il y avait un problème de marché, ce que les Américains appellent crossing the chasm, c'est-à-dire passer des early adopters à la late majority, mais fondamentalement, notre problème, c'est qu'on avait un produit que seuls les gens nous achetaient pour nous et pas pour le produit.
C'était quoi votre playbook de vente du coup, ce qui a fait que vous avez pu scale derrière parce que...
Ben, on n'a pas scale. Justement, enfin, c'est-à-dire que. Ensuite, donc en 2008, on lève de l'argent, etc. Ensuite, ce qui s'est passé, et c'est quelque chose qui se passe en ce moment sans doute pour beaucoup de gens dans la tech en France et aux US d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, il y a un énorme train qui arrive, c'est l'IA générative. Et donc, beaucoup de projets en SaaS qui étaient prévus par les grands groupes sont dépriorisés parce que les équipes sont focalisées sur l'IA générative. Et en fait, nous, à l'époque, il y a eu la même chose, c'était le réseau social. C'est-à-dire que
Ouais.
Facebook, en 2008, a commencé à exploser. Est devenu, en deux, Je crois qu'ils sont devenus ouverts à tout le monde en 2007. Et en 2008, il y a eu la plateforme, il y a eu plein de choses. Bref, ils ont explosé. Et toutes les boîtes, les grands comptes américains, ils devaient avoir une stratégie Facebook, en fait. Et social media. Et donc, en fait, ce qui a explosé à ce moment-là, tous les budgets un peu innovation dans les grandes boîtes, c'était pour le social media management. Et en fait, ce qui s'est passé en 2008, ça a été on s'est pris deux énormes bombes nucléaires dans la tronche, entre guillemets. Il y a eu donc le fait que social media management a pris les budgets, et puis il y a
La
eu
crise.
la crise de 2008.
Ouais.
Et la crise de 2008, enfin, aux États-Unis, moi je l'ai vécu, je venais d'arriver. C'est difficile à imaginer. Je me souviens que on annonce un levée de fonds. J'avais peut-être 10 ou 15 leads suite en inbound qui viennent après suite à notre annonce de levée de fonds. Des grosses boîtes américaines, des gros sites, vraiment des trucs incroyables. Et au final, sur ces 15, 10 ou 15 meetings, 10 ont été, 11 ont été annulés. Parce qu'au dernier moment, je reçois un mail Gmail de la personne qui me dit: « Je suis désolé, mon équipe a été virée. Je peux pas faire le meeting. » J'ai été viré. En gros, tous les mecs se faisaient virer à gauche et à droite. Ils perdaient. Enfin, c'est aux États-Unis, hein, donc c'est à l'américaine. Tu perds ton accès à ton
Ouais.
email et tu prends ton carton et tu te casses. Et en fait, ça a été le cas pour tout le monde, en fait. Donc en fait, tous les leads qu'on avait ont disparu. Et donc voilà, donc c'était vraiment vraiment bizarre comme période.
Et ça s'est terminé comment, du coup, l'histoire avec Virtuose?
Ça s'est terminé comment? En 2000, enfin, 2009 a été une année très difficile à cause de ce que je vous ai dit, notamment aux États-Unis. On avait pas mal de deals qui ont été annulés au dernier moment. En 2010, en fait, le board décide de nommer un nouveau CEO américain. Moi, j'étais pas CEO, hein, mais donc il a remplacé Alex. Et fin 2010, je quitte Virtuos. La
Ok.
boîte s'est finalement fait racheter par Nuance, qui était le leader dans tout ce qui était reconnaissance vocale. C'est le reconnaissance vocale à l'origine de Siri, par exemple. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une division de Nuance qui elle-même est une division de Microsoft. Donc j'imagine que vu l'investissement de ChatGPT, c'est pas forcément la plateforme sur laquelle ils vont le plus investir dans les années à venir, mais c'était un produit de Nuance pendant toutes ces années.
Ok, du coup, juste après, tu rejoins ensuite Checker.
Non, ensuite je en fin 2011, je donc je fin 2010, je quitte Virtuose. C'est une période personnelle assez compliquée parce que j'avais perdu quelqu'un de dans ma famille très très proche, assez très jeune. Donc c'est été et mon idée c'était de créer une boîte, mais j'avais pas forcément une idée précise, j'avais pas de cofondateur, je connaissais pas forcément des gens dans la tech aux US, etc. Et encore moins dans le SaaS, puisque enfin, je faisais un outil qui n'était pas vraiment un outil de SaaS classique, on va dire, à l'époque. Et donc, pendant un an, donc j'ai eu un an et demi de traversée du désert où j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'avais pensé que j'allais créer une boîte. On a eu 200 idées. Sur ces 200 idées, il y a eu 30 licornes. On n'en a lancé aucune. Et parce qu'on n'a pas, on n'avait pas la bonne dynamique. Et finalement, en 2012, pour des raisons alimentaires, j'ai rejoint la boîte d'un copain à moi qui est justement la boîte qui s'appelait IQ Engines, la boîte de reconnaissance d'images. Au début, j'étais parti pour faire du commercial en tant que freelance. Et puis finalement, je me suis rendu compte au bout de 3 mois qu'ils n'avaient pas de problème de vente, ils avaient de problème de produit. Donc j'ai repris en main l'équipe technique, dont un de mes bons copains de l'époque était un peu CTO. Et donc on a créé un nouveau produit qui était un outil de reconnaissance d'images automatique dans les albums photos. Et aujourd'hui, ce produit-là a été racheté. Enfin, il y a eu deux boîtes qui ont voulu le racheter, donc Yahoo et Apple. Et finalement, Yahoo a fait une meilleure offre et donc ils ont été chez Yahoo. Mais aujourd'hui, quand vous utilisez votre téléphone iPhone et que vous tapez, je sais pas, enfant, chien, plage, etc., etc. Enfin, toute la search dans les photos aujourd'hui, en fait, on était les premiers à avoir créé ça en 2012 en utilisant un nouveau papier sur le machine learning qui est le papier qui était le premier qui a créé la première grosse vague d'IA en fait entre 2012 et 2020. Et donc on était les premiers à utiliser ça pour la reconnaissance d'images et voilà.
Okay. Donc après, du coup, tu as lancé Six Doors.
Après, j'ai relancé Six Doors qui était un outil de qui était un une marketplace pour de magasins qui faisaient pas partie de chaîne. On était principalement utilisé pour envoyer des cadeaux en fait, soit des cadeaux des gens de la ville, soit des mères qui avaient leur enfant qui bossait dans la tech à San Francisco et qui voulaient leur envoyer des cupcakes ou un petit cadeau pour leur anniversaire. On a eu un succès d'estime, on a eu une petite traction pendant les grandes périodes de cadeaux, mais globalement, on n'avait pas un business qui était venture scale. Et donc, j'ai arrêté. Et en parallèle de ça, j'avais commencé à investir dans des startups.
Ouais.
Et finalement, j'ai décidé d'en rejoindre une d'entre elles qui était Checker. J'ai rejoint Checker au début un peu comme. Enfin, j'étais pas CEO parce que, comme disait m'a dit Daniel, le fondateur que je connaissais à l'époque, la seule personne que je nommerais CEO, c'est genre Sheryl Sandberg, était pas Sheryl Sandberg. Et je lui ai dit fair enough. Et donc j'ai été un peu en charge de toute la partie business de la boîte, mais la partie business sauf la partie commerciale. Donc en fait, j'étais au début en charge de la partie finance, marketing, data operations et partenariat, vente indirecte. Et donc j'ai fait ça pendant un an, j'ai recruté différentes personnes pour me remplacer sur la partie data operations et la partie marketing et la partie finance. Et en fait, partenariat et biz dev, c'est ce que j'ai continué à faire pendant les 4 ans. Et ensuite, il y a eu d'autres périodes où j'ai repris le marketing quand la personne qu'on embauchait, elle ne faisait pas l'affaire et qu'il fallait que quelqu'un reprenne l'équipe. C'est moi qui reprenais l'équipe.
On aimerait bien s'attarder sur toutes ces aventures, mais je ne sais pas si on aura le temps, il y en a tellement.
Ouais.
Du coup, je pense qu'il serait intéressant pour nos auditeurs de comprendre un peu ton parcours d'investisseur. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es mis à investir dans des startups et pourquoi être passé de l'autre côté du mur, voilà.
En fait, en 2012, je savais que je voulais créer une boîte qui allait être Six Doors, mais je n'avais pas de réseau vraiment dans le local commerce, etc. Et je n'avais jamais créé une marketplace au sens strict. J'avais travaillé pour une marketplace avec eBay, mais je n'avais pas vraiment pas jamais créé une marketplace. Donc je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je vais investir sur moi. J'avais pas forcément un réseau de malades à San Francisco parce que IQ Engine, la boîte dont je te parlais tout à l'heure, c'était une boîte qui était à Berkeley, qui était un peu déconnectée du monde des startups classiques, on va dire. Parce que Virtuos, c'était pareil, une boîte qui finalement était pareil à Berkeley, qui était déconnectée des startups classiques. Donc je me suis dit, j'ai pas de réseau, il faut que je me crée un réseau, il faut que je sois entouré de gens qui soient plus intelligents que moi et qui soient forts. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, investir, c'est une bonne façon parce qu'on apprend et puis c'est une façon
Networker.
de networker et de, entre guillemets, si je leur envoie un email, ils vont être obligés de me répondre vu que je suis un leur investisseur, quoi. J'avais cette illusion-là. Et donc, je me suis dit que j'allais faire ça. Et en fait, il y a plein de boîtes que j'avais rencontrées tout 2012. En prétextant que j'étais un investisseur, mais en fait, c'était principalement parce que je m'intéressais à leur marché et je voulais avoir des informations sur leur boîte. Et donc, j'ai continué à faire ça, j'ai investi dans quelques boîtes, et puis en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, et donc j'ai continué. Je faisais des petits chèques, mais j'ai continué à faire ça. Et donc, j'ai investi dans une quarantaine de boîtes, on va dire, entre fin 2012 et mi-2015, en gros, le moment où je rejoins le checker. Donc, quarantaine de boîtes en 3 ans et demi, 4 ans,
Un business.
en tant que business angel, oui.
Okay.
Et puis ensuite, en 2015, j'arrête parce que, un, j'ai plus trop de sous, et deux, on bossait tellement pour Checker, c'était vraiment une période dingue. Je bossais 80, 90 heures par semaine et je n'avais pas le temps de rencontrer des entrepreneurs. Donc pendant un an, j'ai fait une pause et j'ai repris en 2016, en mi-2016 avec un fonds. J'ai créé un petit fonds sur la plateforme AngelList et j'ai fait ça en fait. Et ensuite, entre 2016 et fin 2019, j'ai investi via AngelList. En tant que avec un syndicat et puis ensuite avec un fonds, donc enfin c'est l'équivalent en France de Roundtable. Et puis ensuite en et c'est comme ça que j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs, etc. Et que ça a propulsé la deuxième partie de ma carrière. Enfin, disons que vraiment l'expérience de checker et l'expérience d'investisseur ont vraiment changer la trajectoire de ma carrière, objectivement. Sans ça, je ne pense pas que je serais en train de vous parler aujourd'hui.
Okay. Et longue journée Ventures, du coup, c'était quoi dans ce que tu viens de nous décrire?
Ouais, en fait, donc dans cette période-là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Lee Jacobs, qui était aussi investisseur, qui avait un petit fonds. Et en 2018, lui et puis quelques autres, on se rencontrait pendant toutes les semaines dans un café à San Francisco pour discuter de deals au début en crypto et puis ensuite dans d'autres sujets. Et puis en fait, on a continué à faire ça en 2019. Donc tous les mercredis matin, on prenait un petit déjeuner ensemble à côté de chez nous. Et on parlait de startups qu'on voyait, etc. Et de la vie et tout ça. Et en fait, lui, il voulait créer un fonds. Moi, je savais que je voulais qu'on allait partir de. Enfin, moi, je voulais savoir si je voulais créer un fonds ou pas. Ou... Mais en fait, mais ensuite, j'ai su aussi qu'on allait partir des États-Unis. Et donc, je lui ai dit, écoute, je ne pense pas que je crée un fonds. C'est pas mon. C'est pas ça mon. Enfin, je pense pas que que c'est ce que je veux faire dans ma vie. Et lui m'a proposé, écoute, est-ce que tu peux me rejoindre comme venture partner? Et donc je lui ai dit oui. Et donc voilà, je suis venture partner pour Long Journey Ventures depuis 2019, enfin depuis fin 2019 et surtout ensuite en 2020, 2021 et jusqu'à aujourd'hui.
Du coup, tu as pu investir entre autres en tant qu'angel depuis 2012 chez Notion, entre autres.
Ouais, donc j'ai investi dans Notion en 2013, dans le premier pré-seed ou seed de Notion. Parce que je connaissais Ivan.
Tu es toujours actif dans la. Enfin, tu es toujours au board.
J'ai jamais été au board. Je suis actionnaire.
Ok.
Suis actionnaire
Carrément.
de Notion. J'ai
Un beau
investi
pari.
dans Checker aussi. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle Kin Insurance, qui est une grosse boîte, une grosse insurtech américaine. Une boîte qui s'appelle Spotter. Enfin, finalement, j'ai eu pas mal de succès dans la fintech, paradoxalement. Après, puisque j'ai investi dans trois boîtes qui seront sans doute des boîtes cotées, qui sont des fintechs. Un qui fait des crédits pour les stars YouTube. Une boîte, donc Payjoy, qui donne des crédits pour des gens qui veulent acheter des téléphones mobiles les pays émergents. Et donc Kin qui est une insurtech.
Ok.
C'est les
Et
cinq.
sur la partie sourcing des opportunités, parce que tu as fait beaucoup d'investissements du coup un peu en perso. Donc je me demande, en plus, ce n'était pas en full time que tu faisais ça, c'était en parallèle de créer ta boîte. Tu nous as dit, j'ai fait, je crois si je ne me trompe pas, 80, à peu près 80 invests quand
Non,
tu étais.
j'ai fait en tout 120, 100, entre 120 et 130 investissements quand j'étais aux États-Unis. Ouais.
Ouais, si je t'écoute, c'est l'équivalent d'un Kima. Alors que tu faisais ça pas en full time, enfin, comment tu. Je n'arrive pas à comprendre déjà
Enfin,
comment tu
Kima, ils font ça
sourçais
par
les
an,
deals.
non? Kima, ils font pas 120 par an?
Ils font une centaine par an. Toi, c'était en
Ouais,
combien
non,
de.
ouais, non, moi, j'en fais une dizaine. Je suis un dixième de Kima.
Mais parce que c'était sur 10 ans que tu as fait.
Non, j'ai fait 120 investissements entre 2012 et 2019, en 7 ans. Voilà,
Ok, ok. Et
donc
donc,
c'est
comment
15
les
par an, en
deals.
gros.
C'était via ton réseau ou tu
Ouais,
faisais aussi
c'est le
sur
réseau.
croisé?
C'est vraiment mon réseau. En fait, au début, c'était via. En fait, Angelist avait un outil de promotion des startups. Au début. Donc, au début, c'était par ce biais-là. Et puis ensuite, quand tu fais des investissements, tu as des gens qui te recommandent. Et puis, je faisais mon Six Doors. Et donc, c'était dans la livraison, tout ce qui était on-demand livraison, enfin, ce qu'on appelle en France Uberification du monde. Donc, il y a plein de gens dans l'écosystème qui commencent à me dire, ah, tiens, tu devais t'investir aussi, regarde cette boîte-là. Et donc, j'ai investi dans d'autres boîtes comme ça. C'est vraiment de proche en proche en fait. Et puis il y a eu Y Combinator, je vais à Demo Day parce que par exemple Checker, les fondateurs pouvaient pas forcément signer. C'était moi qui étais au board de Checker, j'étais le seul board member de Checker parce que les deux fondateurs ils avaient un problème de visa. Donc en attendant qu'il y ait un problème de visa, moi qui étais déjà investisseur et qui étais advisor, ils m'ont dit écoute, t'es au board de Checker. Et en fait,
Okay.
je devais les suivre pour, comme ça, s'ils devaient signer une term sheet, c'est moi qui le signais. Donc voilà, donc j'y suis allé, j'ai investi dans des boîtes comme ça. En fait, quand tu commences à investir, tu as du deal flow. Avoir du deal flow, ce n'est pas difficile. Enfin, ensuite, avoir le bon deal flow, c'est plus difficile. Mais disons que tu as assez vite du deal flow, en fait, quand tu investis.
Ok.
Ok, mais juste, je voulais savoir, est-ce que quand tu investis, est-ce que tu as une thèse d'investissement? Parce que quand j'ai vu sur ton LinkedIn que tu parlais de network effect, est-ce que tu as une thèse, une
Au début, au
framework?
début, au début, ma thèse, c'était vraiment j'investis dans des marketplaces, dans des places de marché, B2C plutôt, ou B2B, et dans des boîtes qui sont travaillées sur le domaine du e-commerce de proximité, du local commerce. Donc, c'était ça ma thèse. Ensuite, Notion ne fait pas partie de cette thèse, comme vous avez bien compris, mais j'ai investi dedans parce que je connaissais Ivan d'avant et que je me suis dit, ce type-là, c'est un génie, un génie de produit. Voilà. Et d'ailleurs, mon plus gros chèque de l'époque, je l'ai écrit dans Notion parce que c'était un génie, quoi, c'est tout. Enfin, il
C'est un beau pari.
fallait.
Hein.
Je
Un
m'étais
beau
dit
pari.
à ce moment-là. C'est la personne qui ressemble, enfin, Ivan était la personne qui ressemblait le plus à l'époque, la star, c'était Mark Zuckerberg. Et je me suis dit, bah, qui ressemble le plus à le côté product genius, semi-autistique, etc. Bah, c'était Ivan Zhao, quoi, c'était sûr. Donc, j'ai investi dans cette boîte.
Ok, super intéressant. Et je sais que tu as un avis assez tranché, parce qu'on en parlait avant le début du podcast, sur la levée de fonds en général en ce moment. J'aimerais bien avoir tes conseils du coup sur de ce point de vue-là et ta vision de la levée de fonds en général pour les startups.
En fait, donc j'ai commencé à investir en 2012. Et en fait, j'ai connu plusieurs périodes. J'ai connu une période où en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, entre la période 2003, 2005, 2006, c'était hyper dur de lever. Ensuite, j'ai connu une période où c'était dur, mais c'était faisable, en tout cas aux US. Ensuite, j'ai connu la période folle où, entre guillemets, c'était facile de lever. Et de plus en plus facile. 2021, c'était là. T'arrivais, t'avais un BP, tu levais l'argent, quoi. Et en fait, et surtout, j'ai donc investi en 130, 140 boîtes. Maintenant, j'ai des boîtes qui ont plus de 10 ans, donc j'ai du recul. Et je me dis, voilà, on a fait cette expérience-là, at scale, et qu'est-ce qu'on en tire? Et moi, la leçon que j'en tire, c'est qu'en fait, on a fait collectivement des erreurs. Et les erreurs, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de boîtes qu'on a financées pendant toutes ces années qu'on n'aurait pas dû financer comme on les a financées. Et c'est vrai aux États-Unis, et c'est vrai évidemment en France, sachant que le marché en France, ou en tout cas en Europe, est souvent plus dur, enfin, plus difficile à atteindre et plus petit qu'aux US. Et je pense qu'au fait, aujourd'hui, pour moi, n'importe quel entrepreneur qui, en France, il se dit, bah voilà, je vais créer une boîte et je vais. Lever de l'argent. Et je pense que ça, c'est une connerie. Que 80% des boîtes qui veulent lever aujourd'hui ne devraient pas lever de l'argent. Parce qu'ils s'attaquent à des marchés qui sont petits ou leur. En fait, pour moi, il faut se poser la question, c'est quoi un succès pour moi, un succès aujourd'hui? Un VC américain, il doit. Enfin, à l'époque, entre 2010, 2012, enfin, on va dire entre 2012 et 2018, 2019, les gens se disaient, voilà. Un succès, c'est une boîte qui fait 100 millions d'ARR. Aujourd'hui, on sait qu'un succès aux États-Unis, c'est une boîte qui fait minimum 350 millions de dollars d'ARR. Enfin, 250 à 350 millions d'ARR. Si on se dit pas qu'une boîte peut arriver à faire 250-350 millions d'ARR, on n'investit pas dans une boîte aujourd'hui. Si on est un fonds qui veut avoir des fonds, enfin, un fonds de plus de 100 millions de dollars, 150 millions de dollars aux États-Unis. Donc, en fait, il y a plein de boîtes, je me dis, ouais, ils peuvent être gros, ils peuvent faire 20, ils peuvent faire 50. Et à 50, j'ai du mal à imaginer cette boîte-là, ne pas avoir beaucoup de concurrence et arriver à passer le cap des 350, enfin arriver à 350, en fait. Et donc, il y a un moment où il faut se dire, voilà, c'est ça le but. Quand on lève de l'argent auprès d'un venture et qu'on veut jouer ce jeu, on joue un jeu qui a des règles et les règles, normalement, c'est d'être gros. Alors, en Europe, on n'a pas vraiment de benchmark parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes, notamment en France, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de boîtes cotées en bourse, etc. Mais malgré tout, je vois pas. Enfin, si un fondateur se lance et me dit je veux faire une start-up et je veux lever des fonds, etc., et s'il me dit qu'il veut faire moins de 100 ou 200 millions d'euros de revenus, et je ne te parle pas en e-commerce, hein, je te parle en SaaS, etc. La réponse pour moi sur cette question, c'est que ce n'est pas un deal venture. Alors, y a des VC qui fonctionnent différemment, etc. Mais fondamentalement, le mécanisme venture a été inventé pour des opportunités qui sont outsized. Alors ensuite, il y a des opportunités, on ne sait pas quelles le sont ou quelles le seront. Mais malgré tout, y a des business, notamment en B2B et ou en B2B SaaS, où je me dis, bon, ben voilà. Ce marché-là, Il n'y a pas une boîte qui fera 50, 100, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en France sur ce marché, quoi. Enfin, pas en ayant dilué 90% de la boîte, etc.
Ok, donc
Or,
parfois. Ouais.
pour moi, en tant que fondateur, qu'est-ce qu'on. Enfin, fondateur, c'est le métier le plus, un des métiers les plus difficiles. En tout cas, pour un jeune diplômé, bien diplômé, qui a fait LIC, qui a fait HEC, qui a fait Les Ponts, qui a fait je sais pas quoi, c'est un des métiers les plus difficiles. Parce que, en fait, c'est le. Jusqu'à présent, quand tu fais tes études, tu joues un jeu où il y a une façon de gagner ce jeu. C'est-à-dire que tu dois répondre à des questions, tu dois résoudre des problèmes qui ont déjà été résolus. Quand tu fais une start-up, le product, enfin, arriver au product market fit, c'est un problème qui n'est pas facile, c'est pas sûr à 100% de le résoudre. C'est comme, tu vois, c'est comme, entre guillemets, te dire, voilà, je me donne un an pour trouver une femme et je vous promets que je vais me marier avec elle et que je vais rester avec elle toute ma vie. Ben, ça marche pas toujours et ça marche même rarement. Et c'est un miracle quand ça arrive. Un, parce qu'il y a des divorces, et deux, parce que voilà, il y a des essais. Souvent, les gens ils sortent avec plusieurs personnes avant de trouver la bonne personne. Et donc, et product market fit, c'est ça c'est ça puissance, c'est un peu comme ça. Et donc, avec moins de code. Et donc,
Okay.
parce qu'il y a plus que deux personnes. Et donc, en fait, je trouve que c'est hyper dur. Et au final, pour arriver où? Oui, tout le monde veut être les Français, là, ils veulent être dans le TechCrunch 40 ou le Next 40, ou je ne sais pas quoi, le truc 120, je ne sais pas, tous ces classements à la con. Ils veulent. Enfin, on ne fait pas tout ça pour uniquement aller voir Macron et lui serrer la pince. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est. Le but de la violence physique, émotionnelle que ça représente, elle doit avoir une compensation. Et la compensation, elle est soit d'un point de vue meaning, du sens que ça a, parce qu'on crée quelque chose, parce qu'on veut résoudre un problème qui correspond à un problème qui est important pour soi, pour des raisons personnelles, familiales, etc. Soit parce qu'il y a une opportunité business. Et l'opportunité business, ce qui est en général la raison numéro un pour 99% des boîtes qui sont lancées en France, je suis désolé, on n'est pas très bien payé quand on est entrepreneur, on bosse énormément d'heures, le but c'est d'avoir un succès financier. Et le succès financier, il est plus simple quand on n'a pas d'actionnaires ou quand on a peu d'actionnaires que quand on a des actionnaires qui s'attendent à des sorties, à des valos déconnantes. Un
Ok.
SaaS qui fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, qui a levé à une valo de 30, 40, etc., et qui croît de 80% par an aujourd'hui en n'étant pas profitable, eh ben, il vaut pas, y a personne qui va l'acheter pour 30, 40.
Ok.
Genre, sauf si c'est un investissement stratégique. Et ça concerne deux boîtes par an, trois boîtes par an. Et donc, en fait, sachant que la majorité des boîtes en Europe, elles sont rachetées pour moins de 50 millions, eh ben, je pense que 90% des entrepreneurs français, déjà tous ceux dans le e-commerce, eux, ils n'auraient jamais levé de l'argent ou bien levé de l'argent auprès de proches ou éventuellement des business angels, mais voilà, c'est tout, quoi. Et les gens qui travaillent dans le SaaS, par exemple, à moins qu'ils aillent, il y a une disruption de produits, une disruption technologique forte, ou qu'ils vont target un marché qui est énorme, même en Europe. Par exemple, un Payfit, c'est un marché énorme, et toutes les boîtes françaises peuvent être clients. Bon, ben ça demande de l'argent. Un Conto, pareil, etc. Mais il y a beaucoup de boîtes qui sont sur un truc niche, je ne sais pas quoi, un outil dans l'événementiel ou un outil dans je ne sais pas quoi. Enfin, c'est des marchés qui sont petits. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des énormes marchés. Et donc, vaut mieux au début bootstrapper, c'est-à-dire pas lever d'argent ou lever peut-être 100, 200K de gens proches ou de BA, éventuellement avec la BP, c'est de lever un peu plus, etc. Mais de faire les choses de point de vue minimaliste. Et ensuite, on voit bah, si ça cartonne, que le marché est 10 fois plus gros qu'on se compensait, que bah, voilà, si tu creuses, t'as une mine d'or, bah, tu lèves et tu joues le jeu. Mais si tu avais juste quelques petites pépites qui permettent de bouffer, etc., bah, tu lèves pas. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on dit oui, si tu n'es pas dans l'IA, bah, c'est difficile de lever. Bah oui, mais le problème n'est pas l'IA. Enfin, l'IA change les fonctionnalités des produits et fait que le retour sur investissement pour les boîtes, c'est souvent non seulement du gain de productivité, mais du remplacement de salaire. Donc là, évidemment, ça, les boîtes en France comme aux États-Unis sont très friandes de ça parce que le ROI est beaucoup plus tangible. Et il y a, en plus de ça, il y a le côté, ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport en 2008 et le côté social media. C'est-à-dire qu'il y a une tendance et bah voilà, tu bosses dans une grosse boîte aujourd'hui, tu fais un projet d'IA, c'est cool, tu vois, tu as un truc à. T'es exec, etc. Tu veux te faire bien voir par ton boss. Le CEO, il te parle d'IA toute la journée. Tu as ton projet d'IA qui a un succès. Tu peux avoir une promotion, tu vois. Mais bon, c'est des budgets qui seront alloués cette année, l'année prochaine, dans peut-être encore l'année suivante. Mais ensuite, c'est fini. Ensuite, tout le monde aura son budget d'IA. Enfin, tout le monde. On reviendra au fait que les gens achètent les produits parce que c'est un ROI réel et pas uniquement parce que ça fait briller la personne qui l'a mis en place. Et donc, pour moi, et encore une fois, beaucoup de produits d'IA aujourd'hui, que ce soit en France comme aux États-Unis, c'est en gros le chat GPT que j'ai entraîné sur deux ou trois données. Et donc, pour moi, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent mal et qui se disent, voilà, il y a une opportunité parce qu'il y a l'IA, ou il y a une opportunité et je veux lever de l'argent, alors qu'en fait, ils ne devraient pas lever de l'argent, ou en tout cas, pas plus que 500K. En France, je dirais 500K. Aux États-Unis, 1 million, parce que les coûts sont plus élevés. Mais pour moi, quand on lève plus que 500K en France, c'est qu'on a un truc où on n'a pas le on n'a pas le choix. C'est soit énorme, soit c'est zéro.
Bah, écoute, super instructif, Pascal. C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec ce qu'on voit aujourd'hui, surtout dans les grosses levées de fonds dans l'IA, quoi, les centaines de millions levées de certaines startups. On n'a pas
Non mais
tendance à.
oui, mais en fait, ça c'est autre chose. Mistral, ils n'ont pas le choix. C'est leur marché. Mistral, ils sont soit énormes, soit zéro. Hachette a levé il n'y a pas longtemps. Je connais très bien le fondateur. Pareil, eux, ils sont sur une logique binaire. Logique binaire, il faut lever parce qu'ils sont sur des marchés qui sont gigantesques. Moi, je parle plus de tous les gens qui ont un petit SaaS qui fait une fonctionnalité X ou Y, Z. Qui eux ne c'est eux le problème parce que eux c'est la masse, eux c'est ceux qui les plus nombreux qui veulent lever aujourd'hui et qui ont du mal ou bien qui ne devraient pas le faire tout simplement parce qu'il y a pas parce que leur opportunité de marché n'est pas forcément une opportunité venture parce que même si tu fais vite 300K ou 1 million ou 2 millions venture la barre c'est pas 2 c'est pas 10 c'est 200. Et tu m'enlèveras pas de l'idée qu'en France, c'est minimum 100-150. Et c'est énorme, 100-150. Il y a combien de boîtes SaaS en France, franco-françaises, enfin franco-françaises dans le sens créées en France, etc., qui font plus que 100 millions d'euros de chiffre d'affaires? Il n'y en a même pas 10.
Bon bah écoute, non, c'est clair, il n'y en a pas, je pourrais pas t'en citer 10.
Ouais, il y a Dataiku, Content Square, Miracle. Sans doute Doctolib, tu vois, enfin,
Spendesk,
ouais,
celle qui.
ouais. Spendesk, je suis pas sûr. Conto, peut-être, et encore, je sais pas. Enfin, il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, je dis juste qu'il y en a pas beaucoup, quoi.
Yes, mais du coup, je sais que le temps presse et on voulait aussi parler de ton expérience avec Nusa Labs.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu le concept derrière et pourquoi avoir lancé un tel business?
Alors en fait, Nusa Labs, c'est venu de deux choses. La première chose, c'est le constat que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je me dis, il y a deux types de business. Il y a les business ventures et le reste. Et le reste, ils n'ont pas de maison. Et la deuxième observation, c'est que après avoir investi dans des super fondateurs en tant que business angel, j'ai vu ce que c'est que le très très haut niveau. C'est-à-dire le niveau Real Madrid en Ligue des Champions. Vraiment très
Notion.
très haut niveau. Les Ivan Zhao, les Daniel Yanis, les Sean Harper de Keane. Vraiment le très très haut niveau. Et je sais ce que c'est. et je sais que je ne suis pas comme eux. Et je sais que l'énorme différence entre eux et moi n'est pas une différence intellectuelle, c'est une différence que eux, c'est des gens qui sont passionnés par un problème et qui sont prêts à dédier leur vie sur la résolution de ce problème. C'est pas mon cas. Moi, je suis quelqu'un de curieux, j'aime un peu papillonner, j'aime découvrir des choses nouvelles, etc. Et donc, je ne suis pas ces gens-là. Et donc, quand on n'est pas ces gens-là, dans la tech, qu'est-ce qu'on fait quand on a mon expérience? On est soit exec dans une boîte et on change tous les 2 à 4 ans, soit on est VC. Je voulais pas être VC parce que ne pas faire, ça me manque. Et être exec dans une boîte comme j'ai fait pour Shaker, c'est pas. Enfin, j'ai eu énormément de chance avec Shaker, ça a changé ma vie, mais je voudrais pas le refaire. C'est trop violent, j'ai eu trop de chance. J'ai pas envie de ça. J'ai 45 ans, enfin 46 maintenant. J'ai pas envie de ça. Et donc, je me suis dit, en quoi je suis très fort? Je suis pas bon pour le 0 to 1. C'est marrant parce que le podcast s'appelle 0 to 1. Je suis OK pour le 0 to 1. Je l'ai fait, je suis OK. Mais moi, là où je suis vraiment le meilleur, c'est le 1 to 10. Prends un truc qui marchouille et vraiment le propulser à la prochaine étape. C'est ce que j'ai fait au début chez Checker. Même chez Virtuose, j'ai vraiment aidé à prendre un truc qui marchouillait et à le passer à la prochaine étape. Et je me suis dit, c'est ça mon. Chez Yahoo Engine, c'est pareil. On avait un truc, ça marchouillait, on a réussi à passer à la prochaine étape. Donc je me suis dit, c'est ça mon skill set. Et je me suis dit, il y a. Donc j'ai réfléchi à différentes thèses de rachat, racheter des choses qui marchouillaient ou qui marchaient et que je pouvais pas faire passer un cap. Donc j'ai. Pendant un an et demi, j'ai réfléchi à différentes thèses. J'ai testé différentes thèses. Et puis finalement, pour des raisons à la fois financières et des raisons d'intérêt, j'ai décidé de me focaliser sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de racheter des boîtes qui font entre 200 et 800K de chiffre d'affaires, de boîtes de SaaS, qui sont très profitables.
C'est quoi en général les multiples de valo sur un SaaS aujourd'hui?
Pour les boîtes que je rachète, c'est entre 2 et 4 fois l'ARR. Ouais. Mais c'est surtout parce que, mais c'est le cas parce que les boîtes que je rachète, elles sont très profitables. Donc elles ont entre 60 et 80% de profit, en fait. Et or, ces boîtes comme ça, elles sont rachetées à un multiple de profit. Et donc, on rachète des boîtes qui ont été en général donc bootstrappées, c'est-à-dire les gens n'ont pas levé d'argent ou ils ont levé peut-être 100 000 balles ou des trucs comme ça. Ils ont créé une boîte qui marche bien, qui est profitable, qui leur permet de se verser un bon salaire, etc. Mais c'est devenu un job, c'est des gens techniques, ils veulent faire autre chose à un moment et ils veulent vendre. Souvent, ils veulent vendre parce qu'ils se rendent compte que. La raison pour laquelle la boîte ne croît pas plus, c'est eux qui sont un frein à la croissance de la boîte. Parce qu'ils n'ont pas les skills, les compétences marketing, justement, ou commerciales. Et voilà, et nous, c'est là qu'on intervient. Nous, on prend la boîte et on la rachète et on l'amène à l'étape du dessus, en fait.
Ok, et donc
Et en fait,
comme...
on utilise le cash que les boîtes génèrent pour soit réinvestir dans ces boîtes-là, soit racheter d'autres boîtes.
Ok, intéressant. Et du coup, comment tu trouves ces boîtes et est-ce que tu as d'autres critères que la profitabilité ou est-ce que c'est un critère qui en soi est révélateur de tous les autres que tu pourrais avoir envie de regarder?
C'est une très bonne question. Écoute, je me rends compte quand même que le troisième critère, c'est que la boîte est un début de canal d'acquisition de clients. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu pas mal récemment de boîtes qui ils connaissaient une personne, qui connaissait plein de gens, et donc ils ont 10, 15 clients, 20 clients. Mais en fait, je me dis souvent, si cette boîte-là, si le fondateur il part, qu'est-ce qui reste? En général, moi, j'aime bien racheter des boîtes. Les boîtes dont je vous décrivais tout à l'heure, il y a deux types de boîtes comme ça. Il y a soit des boîtes avec, en gros, quelqu'un qui a un bon réseau, qui a vendu des grands comptes et qui a une dizaine, vingtaine de clients, mais pas vraiment de canaux d'acquisition formalisés. Soit des boîtes qui ont plein d'inbound, qui font ce qu'on appelle le product-led growth, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de gens qui viennent tout seuls et qui s'inscrivent et qui mettent leur carte de crédit et qui vendent et qui achètent comme ça. Et où là, il y a des problématiques de comment on fait ça, on fait pour que les grandes boîtes utilisent des produits et puissent l'utiliser à plus que pour que plus pour que pour un poste. Comment on crée un produit pour convertir plus de trafic, etc., etc. Donc, les trois critères, c'est le chiffre d'affaires, la marge et le fait qu'il y a un début de canal d'acquisition.
Ok, et pour
Ça marche.
l'identification, ça se fait de manière classique sur LinkedIn, le réseau, ou
Non,
tu as des...
il y a deux choses. Enfin, je publie sur LinkedIn maintenant, donc suivez-moi sur LinkedIn. Et donc, c'est une façon pour moi de générer des emails, des inbounds. Et puis, il y a beaucoup de brokers dans cet univers. Donc, il y a des brokers qui me connaissent. Et puis, il y a des places de marché en France, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a Acquire.com, il y a FE International, il y a plein d'acteurs comme ça qui regroupent en fait des opportunités. Donc, voilà, c'est un peu ces différentes voilà.
Ok.
Excuse-moi, Gary, j'avais juste une petite question. C'est pour nos auditeurs. Est-ce que tu recommanderais ce véhicule d'investissement ou c'est plutôt un véhicule d'investissement qui demande beaucoup d'expérience professionnelle, du savoir au niveau, par exemple, produit, marketing? Enfin, à quel point il est accessible pour le commun des mortels?
Objectivement, je pense pas qu'il soit accessible pour le commun des mortels. C'est assez difficile. C'est assez difficile parce qu'il faut avoir du capital et de l'expérience. Ce que je connais, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un SaaS qui marche et ensuite ils en créent un deuxième et un troisième et un quatrième et un cinquième, etc. Et donc, ça, c'est une façon de faire ce que je fais en bootstrappant et ça, c'est un modèle magique. Enfin, quand ceux qui le font et qui le font bien, ils sont un, ils ont. Ils vivent très bien et deux, ils ont énormément de succès. Mais je dirais que le modèle que je mets en place, moi, il est assez compliqué à mettre en place sans capital initial. Et donc, il y a des gens qui lèvent de l'argent pour faire ça. Mais en général, les gens qui lèvent de l'argent pour faire ça et qui arrivent à lever de l'argent pour faire ça, c'est des gens qui viennent plutôt du monde du private equity que de la tech. Et enfin, moi, et je pense que les gens qui écoutent ce podcast, ils viennent de la tech. On vient de la tech. Nous, on aime le produit, on aime. Enfin, c'est ça ce qu'on aime. On n'est pas venu là pour faire des modèles Excel ou Google Sheet. Donc voilà.
Non, t'as
Il se trouve
raison, c'est...
que moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est le fait de découvrir. Je suis comme un collectionneur, en fait. Quand tu es collectionneur, tu découvres des choses que tu connaissais pas. Et chaque SaaS, c'est l'occasion d'étudier pendant des fois 10 minutes, des fois pendant 2 semaines, des fois pendant des années. Un secteur, un pan de l'économie que tu connaissais pas. Et ça, c'est pour moi, c'est amusant. Même si le pan de l'économie n'est pas majeur, c'est amusant.
Alors, non, c'est vraiment ça te permet d'apprendre sur plusieurs différents secteurs, quoi, et de comprendre leur marché. Mais je voulais aussi savoir comment tu les optimises, c'est ça, d'un point de vue produit, marketing. Parce que tu mentionnais que les gens, en général, qui créent ces SaaS, ils savaient peut-être pas comment les optimiser d'un point de vue marketing parce que c'était pas leur casquette, c'était pas leur force principale, voilà, ou même d'un point de vue tech, parce que c'est quand même un software, il y a quand même un software derrière, et je me dis personnellement, ça peut être des fois très compliqué, enfin, quand t'es pas très technique d'optimiser ces outils, quoi, ces SaaS.
Alors, pour la partie technique, on fait appel à des gens. Enfin, on a quelqu'un. Déjà, j'ai un part-time CTO dans ma boîte et en plus, on fait appel à une boîte qui nous aide à faire la due diligence technique. Donc, ça, c'est une première étape. Même si c'est pas suffisant, mais c'est déjà une étape. Non, mais je pense qu'au niveau de l'optimisation, ça se joue, on joue sur différentes dimensions. En fait, enfin, les boîtes qu'on rachète, elles ont du trafic qui viennent soit d'une marketplace, soit d'un Google, etc. Donc déjà, la question, c'est comment on améliore ce trafic. Donc comment, si elles faisaient du SEO, qu'elles étaient bien indexées sur Google, comment on peut faire en sorte que le truc un peu bricolé qu'elles aient fait, on fasse mieux qu'elles. Donc voilà, on investit là-dessus. Ensuite, on regarde est-ce que le produit il est facile à utiliser ou pas. S'il n'est pas facile à utiliser, Bah, c'est sans doute qu'il y a plein de gens qui convertissent pas parce que le produit il est un peu dur à utiliser, dur à comprendre. Donc là, on a un grand levier au niveau de redesign de produit. Et puis ensuite, il y a un autre levier qui revient. On se refait pas. Hein. Je reviens à ce que je te disais en 2003. En 2003, je voulais faire du product management ou du product marketing. Et je pense que si j'avais fait une carrière dans la tech, enfin, à part le biz dev, si j'avais fait la chose la plus intéressante pour moi, c'est le product marketing, parce que c'est le positionnement produit. Et en fait, il y a énormément de travail à faire au niveau du positionnement produit. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut dire et montrer au niveau des fonctionnalités pour qu'une grosse boîte se dise, ce produit, c'est pour moi. Et ça, c'est ce qu'on décrit sur la home page. C'est comment on réfléchit aux besoins de ses clients. Et les besoins d'un grand groupe, ce n'est pas uniquement des fonctionnalités. C'est le fait de comment je paye ma facture. Est-ce que tu peux rentrer dans mon système Ariba ou je sais pas quoi de procurement? Est-ce que tu as les fonctionnalités qui fait que mon équipe puisse l'utiliser parce que c'est évidemment pas qu'une personne qui va l'utiliser ton logiciel, etc., etc. Et donc ça peut être aussi des outils de SSO, tu vois, de single sign-on, de sécurité, SOC 2 compliance, etc. Enfin, c'est des trucs horribles qui t'as envie de te flinguer à le faire, mais voilà, les boîtes, des fois, elles ont besoin de ça et il faut le faire, c'est tout. C'est pas dur, il faut le faire. Et ça, quand t'as créé une boîte, que t'as une boîte qui fait 20, 30, 40, 50K de chiffre d'affaires par mois, la majorité d'entre eux, ils n'ont pas envie de s'embêter à faire du SOC 2 compliance, faire du SSO, du truc. C'est pas amusant.
Okay. Du coup, de manière générale, pour toi, c'est quoi qui a le plus d'impact pour faire passer d'une boîte de 1 à 100? Est-ce que c'est plus sur la partie vente plutôt, si on se dit qu'on est déjà sur un produit qui a les bonnes fonctionnalités, etc. Ensuite, c'est quoi? Est-ce que c'est de mettre en place une sales machine? Et si oui, c'est quoi une sales machine? Est-ce que pour toi, ce qui a le plus d'impact, c'est justement le référencement, le SEO? C'est quoi pour toi qui a le plus d'impact
En
si on
fait,
veut faire une
pour
seule
moi,
chose?
tout dépend. En fait, nous, on ne crée pas forcément des boîtes qui sont très gourmandes en sales.
OK.
Ce n'est pas notre mode opératoire. On aime quand les gens ils viennent nous voir et ensuite, nous, on sait leur vendre. Déjà, c'est la
OK.
première chose. Mais pour leur vendre, il faut avoir ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est en général pas des fonctionnalités en plus. C'est un mode opératoire qui montre que tu es compatible. C'est vraiment. C'est des codes, en fait. Vendre de grands comptes, c'est avoir des codes. Et si tu montres que tu as les codes, tout le monde dit OK, tu rentres.
C'est quoi les codes que tu peux nous partager? Si tu as des codes à nous partager,
Bah,
là.
les codes, enfin, au bout d'un moment, les codes, ça va être. En France, ça va être le RGPD. Le single sign-on qui fait que ils n'utilisent pas ton login, mais ils utilisent un login qui est rattaché à des outils comme Okta ou autre. Donc, il peut être géré par l'IT. Des outils comme SOC 2, des compliance, aux États-Unis, c'est des SOC 2 compliance. Donc, c'est des choses qui font que tu as des normes de sécurité adéquates, etc., etc. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'en gros, l'IT vont approuver l'achat de ce logiciel. Et donc, remplir des formulaires de sécurité, enfin, tout ce genre de choses. Et donc, voilà, ça, c'est montrer patte blanche. Ça, c'est montrer, je comprends, vous êtes un grand compte, vous avez vos besoins, on peut répondre à vos besoins. Les processus d'achat d'un grand groupe, c'est pas, tiens, je mets ta carte de crédit, je te paye tous les mois, etc. C'est, j'ai besoin de remplir 50 000 formulaires. Aux États-Unis, il y a le concept de purchase order. Donc, il faut avoir un numéro de commande, il faut avoir un bon de commande, numéro de commande, le mettre sur tes factures, le renvoyer via un logiciel d'achat, etc., etc. Une fois que tu comprends ça, tu sais vendre, mais tant que tu l'as pas, tu ne peux pas vendre à des grands groupes. Ou bien il faut espérer que la personne en face de toi, elle va mettre sa carte de crédit et tous les mois, elle va faire une note de frais pour se faire rembourser. Ça, c'est vrai pour certaines personnes, pour certains logiciels, mais ce n'est pas la majorité.
OK.
Et notamment quand tu vends à des équipes autres que les équipes marketing. Parce que dans les équipes marketing, que ce soit en France ou aux États-Unis, tu as des budgets ou des gens qui ont des cartes de crédit parce que tu as tellement de besoin d'acheter des choses en marketing que tu as ça. Mais si tu vends à des commerciaux, si tu vends à des équipes IT, si tu vends à des équipes produits, engineering, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de carte de crédit. Donc voilà, pour moi, je pense que au début, quand tu crées un. On est dans le logiciel, pas le logiciel, le podcast Zero to One. Quand tu passes de 0 à 1, à qui tu vends? Au début, tu vends aux gens que tu connais.
Ouais.
Ensuite, tu vas aller sur LinkedIn et tu vas envoyer des emails à des gens qui pourraient être tes clients pour voir est-ce que tu veux acheter mon produit. Quand tu commences à avoir 10, 15, 20 clients comme ça, tu vas te dire voilà, comment je peux mettre promouvoir pour mon produit? Ça peut être sur Product Hunt si c'est un produit à dimension mondiale. Ça peut être. Il y a des gens qui vont sur des trucs genre AppSumo pour faire des deals lifetime, machin. Moi, je ne suis pas un fan de ça, mais bon, il y en a des gens qui font ça. Ça peut être commencer à faire un peu de SEO, donc écrire du contenu que tu publies sur Twitter, sur LinkedIn, qui fait qu'il y a des gens qui te rencontrent, qui t'identifient, etc. Ça génère aussi du SEO qui te permet de passer à l'étape suivante, etc. Et puis ensuite, oui, là, à ce moment-là, quand tu commences à avoir des gens qui tapent, des grands comptes qui te demandent des choses, là, tu peux passer à l'étape commerciale. Évidemment, si tu lèves de l'argent, et beaucoup d'argent, et que tu veux faire une boîte venture, il y a un moment où assez vite, tu dois recruter un commercial. Parce que à partir du moment où les fondateurs savent vendre et ont vendu à une dizaine, vingtaine de clients, en général, il faut à ce moment-là commencer à recruter des commerciaux. Mais quand tu es bootstrappé, tu fais pas ça.
Surtout en France où t'allais chercher ça coûtait assez cher, quoi.
Oui, enfin, tu as les charges, mais tu es surtout. Le problème n'est pas les charges, parce qu'en fait, le problème, c'est le coût que tu payes, le prix que tu payes. Et aux États-Unis, les salaires sont plus importants. Un enterprise sales aux États-Unis, ça coûte. Allez, minimum 150 de fixe et la même chose en bonus variable s'il atteint ça, s'il fait ça comme. Et encore, là, c'est pas un grand compte. C'est quelqu'un qui vend des deals à entre 10 et 250K, on va dire. Donc, 150K, il faut quand même les payer tous les mois, les 12K de salaire, plus un peu l'assurance maladie, etc. Enfin, les 15K en gros que ça te coûte, tu les payes quand même. Hein, donc, non, le problème, c'est en effet la flexibilité, mais c'est surtout de vendre et de savoir de trouver des gens qui savent vendre. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est difficile de savoir si la personne sera bonne si tu ne l'as jamais fait toi-même. Donc, c'est pour ça qu'au début, il faut avoir vendu en tant que fondateur directement avant de recruter quelqu'un. Je crois assez peu au fait que quelqu'un va avoir créé un produit, n'avoir jamais vendu ce produit et recruter quelqu'un qui va avoir du succès. Ça c'est vraiment un
Ok.
miracle.
Est-ce que tu as un dernier conseil pour les jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui, en 2023, 2024?
Bah, déjà, je dirais que ça n'a jamais été aussi facile et ça n'a jamais été aussi difficile. Ça n'a jamais été aussi facile parce que y a énormément de success stories. Il y a les success stories avec un champ des possibles, aussi bien les gens de Mistral qui ont créé une licorne en 2 ans, enfin en 1 an, comme des gens comme le gars de Lemlist qui a bootstrappé une boîte jusqu'à 10 millions d'euros d'ARR et finalement levé. Enfin, il y a plein d'opportunités, il y a plein de. Et en fait, surtout, ces gens-là, ils sont publics. Ils partagent des choses sur LinkedIn, ils partagent leur expérience. Il y a énormément de contenu, donc ça, c'est génial. Donc ça, en ce sens, ça n'a jamais été aussi facile. Ça n'a jamais été aussi difficile parce que tout le monde voit la même chose. Donc au final, tout le monde voit les mêmes opportunités. Et donc il y a plus de concurrence. Je dirais que c'était la période où j'étais, c'était plus facile parce qu'il y avait moins de monde. Donc on pouvait plus facilement se mettre en évidence. Mais bon, je dirais que la chose la plus importante que je dirais à quelqu'un qui veut entreprendre, c'est soit tu as une idée d'entreprendre et une idée que tu veux vraiment faire, soit parce que ça t'amuse de le faire, soit parce que c'est quelque chose, c'est ton but dans la vie. Dans ce cas-là, tu le fais. Soit ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, rejoins une start-up, bosse pour une boîte, quelle qu'elle soit. Évidemment, c'est mieux de bosser dans une boîte qui marche, mais rejoins une boîte, apprends. D'accord? Si tu dois apprendre, vaut mieux bosser pour quelqu'un où soit tu trouves que les gens sont plus intelligents que toi, soit tu trouves que soit la boîte elle marche. Il n'y a rien de qui remplace la, enfin, il n'y a rien de mieux que d'apprendre dans une boîte qui marche. J'ai été chez Checker, franchement, j'ai à la fois plus bossé, mais j'étais pas meilleur, c'est juste que c'est plus facile. Quand tu vends un produit que les gens veulent acheter, eh ben, c'est plus facile. Parce que ça devient un problème d'exécution et pas un problème de trouver le truc de génie qui fait que, ah, peut-être, etc. Enfin, je veux dire, je parle
Ça
toujours
marche
de
déjà.
football. Quand tu as les meilleurs joueurs de football sur un terrain et que tu as un bon équilibre d'équipe, tu n'as pas forcément besoin du meilleur entraîneur. Quand tu as des joueurs moyens, tu as besoin d'un super entraîneur. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça. Et donc, c'est génial de bosser dans une boîte qui marche parce qu'on apprend, on apprend à faire, en fait, puisque ça marche. Quand ça marche pas, tu galères et tu fais, mais tu sais pas si ça marche. Tu sais pas si l'échec de ce que tu fais, c'est parce que le produit ne marche pas ou parce que tu n'es pas bon dans ce que tu fais. Donc, vaut mieux rejoindre une boîte qui marche que d'avoir un titre honorifique qui veut rien dire, en tout cas en début de carrière. Les titres comptent entre 35 et 40 ans, pas avant.
Merci en tout cas Pascal pour tes précieux conseils. Ton expérience assez longue en dit beaucoup et j'espère que nos auditeurs auront pu apprendre de cette expérience. Est-ce que tu peux leur dire où ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux, voilà, et où ils
Alors, ils
peuvent te
peuvent me
suivre?
retrouver sur LinkedIn, donc Pascal Lévy Garbois, ils peuvent me suivre. Voilà. Et puis sur Twitter, je passe pas beaucoup, mais je vais commencer à poster plus dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je suis deux Pasques, deux comme le chiffre 2, Pasques, PASC. Ils peuvent me contacter pascal@nousalabs.com. Nousalabs.com.
Ça marche. Bah,
Merci beaucoup.
merci beaucoup Pascal en tout cas.
Merci à vous.
Merci.
Merci.